Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au programme du pédalo ce soir, 20 associations s'inquiètent suite à des coupes budgétaires brutales concernant 5 programmes liés à la loi Plein Emploi. Avec l'Union départementale des associations familiales, UDAF 49, elle cherche à alerter sur la mise en péril des programmes de remobilisation. Pour en parler, on reçoit Malika Glani, directrice générale de l'UDAF, et Simon Cuyer, directeur de l'IRESA. Voilà, vous savez tout pour ce pédalo du mercredi 1er juillet, alors ajustez vos jets de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
C'est l'inquiétude pour de nombreuses associations du Maine-et-Loire qui viennent de voir leurs subventions baisser fortement. En plein milieu d'année, ces coupes budgétaires remettent en cause les projets et actions menées par les différentes structures. Déjà fragilisées sur le plan financier, elles ont de plus en plus de mal à maintenir leurs projets. Pour en parler, on reçoit Malika Glani, directrice générale de l'UDAF, et Simon Cuyer, directeur de l'IRESA. Bonsoir.
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 Alors, pour qu'on comprenne bien la situation. En 2023, la loi Plein Emploi est promulguée avec 5 programmes pour aider les personnes non recensées dans France Travail à trouver un emploi. Les 20 associations répondent à un appel à manifestation d'intérêt pour s'occuper de ces programmes. Oui, mais voilà, le 22 mai dernier, on vous annonce par mail, de manière très froide, une baisse des budgets, alors que vous avez une convention qui est censée garantir des fonds pour 2026. Est-ce que c'est bien ça ?
C'est bien ça. C'est bien résumé.
Alors ces coupes, elles arrivent en plein milieu d'année. Les projets, ils ont été financés, il y a des actions en train de se faire. Comment on se réorganise en cours de route ?
Simon ?
Alors peut-être déjà, avant de se réorganiser, on est un peu stupéfait, on est un peu en colère, on ne comprend pas. Parce que comme tu l'as dit, effectivement, on a une convention jusqu'en novembre 2027 de signer avec des engagements de l'État. Et donc avant de réfléchir à l'organisation, on se dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» comment on va faire pour ajuster les activités au service des bénéficiaires sur le terrain et surtout ajuster l'organisation parce qu'on a recruté, chacune de ces organisations ont recruté des personnes pour mener les actions sur le terrain. Et cette coupe, elle est non seulement brutale, mais elle est en plus rétroactive au 1er janvier 2026. Donc ça fait un peu la double peine pour les associations.
Complètement.
Alors, on le disait, ces projets ils sont répartis sur 5 programmes, donc pour les jeunes de moins de 25 ans, pour ceux qui ont plus de 25 ans, les personnes en situation de handicap psychique, les personnes vivant dans des bidonvilles et les personnes peu ou pas qualifiées dans des zones de revitalisation rurale. C'est quoi les actions concrètes qui sont menées pour répondre à ces problématiques ?
Alors, moi, je peux parler pour l'UDAF. Nous portons 2 dispositifs dans le cadre de la fameuse O2R, donc l'offre de repérage et de remobilisation liée à la loi Plein Emploi. Donc, nous avons le dispositif Ginova, pour les jeunes de 16 à 25 ans, donc on dit jeunes invisibles, qui sont en décrochage scolaire, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas forcément de logement, voilà, qui n'ont rien. Et donc qu'on doit raccrocher, repérer déjà, parce que voilà, ils tendent pas la main en disant bonjour, on a besoin de vous. Il faut les trouver et puis il faut créer le lien de confiance et ensuite les remobiliser. Et puis nous avons un autre dispositif qui s'appelle ITIA. Donc là, c'est pour les, c'est le pendant, c'est pour les plus de 25 ans, jusqu'à 64, 65 ans. Et donc dans la même situation, là, on parle de personnes qui sont invisibles du secteur public de l'emploi, donc c'est-à-dire qui ne sont pas inscrits à France Travail, qui sont isolés en milieu rural et qui ne sont pas à l'emploi. Et en fait, ces deux dispositifs, nous avons fait le choix de les porter en consortium. C'est-à-dire que si l'UDAF de Maine-et-Loire parle ce soir, elle est aussi la voix des associations qui ont souhaité répondre à ces appels à projets à ses côtés. Donc nous avons l'association AFODIL, le CIDFF, ALIA et le réseau Habitat Jeune sur le département de Maine-et-Loire. Voilà, ce sont nos partenaires.
Et vous, Simon ? Et toi, Simon ?
Alors, moi, je suis représentant d'un réseau de l'économie sociale et solidaire en Maine-et-Loire, l'IRESA. On n'aime pas trop faire ça. Ça veut dire que quand on doit réunir les acteurs, ça veut dire que on préfère les réunir pour des moments joyeux. Mais là, il a fallu effectivement se mettre en ordre de marche. La vingtaine de structures dont tu parles sont de près ou de loin en lien avec l'IRESA. Sur les autres dispositifs, elles sont portées par différentes typologie de structure de l'économie sociale. On peut citer Vive 3, on peut citer la dynamique de centre social sur Chemillet, avec tout un tas d'acteurs, d'entreprises d'insertion, de chantiers d'insertion qui font partie du réseau de l'IRESA. Et donc effectivement, c'est tous ensemble sur ces publics qui sont très éloignés. Il n'y a pas de solution miracle. En tout cas, s'il y en avait, elle serait usée depuis longtemps. Et là, l'objectif, c'est justement en collectif de réfléchir à l'accompagnement renforcé de ces publics.
Mais pour autant, avec moins de fonds, vous devez quand même réaliser ces projets.
Oui.
Est-ce que c'est possible ?
Non. Non, c'est pas possible. En fait, quand on a déposé nos projets, donc nous on a déposé un projet en 2024 et un second en 2025, ce que je vous disais, donc nous on a deux dispositifs portés en consortium. L'annonce là de ces baisses budgétaires, moins 10%, moins 20%, c'est de se dire avec quoi on va continuer à accompagner, qu'est-ce qu'on va supprimer ? Qu'est-ce qui, pour nous, nous semblait indispensable, hein. Quand on a répondu à l'appel à projet, on ne s'est pas dit on va se faire plaisir, on va mettre ça et ça dans notre dossier. Non, nous, on a imaginé, on est parti des besoins de ces publics qui étaient considérés invisibles et qu'il fallait soutenir. Et on s'est dit on a besoin de ces compétences et de ces actions. Et en fait, aujourd'hui, et on l'a travaillé ça avec nos équipes, c'était sur quoi, en fait, on va devoir tirer un trait. Qu'est-ce qu'on ne va plus offrir, sur quoi on ne répondra plus. Donc c'est ça aujourd'hui. Et puis le deuxième impact important aussi dans l'offre qu'on peut proposer à ces publics, ce sont les contrats de travail. Donc on a des professionnels qui ne sont pas renouvelés dans le contrat qu'on avait pu leur proposer, ou malheureusement on est sur une diminution du temps de travail. Voilà, ça c'est l'acte 2.
Vous recevez 40% des fonds sous forme d'acompte et les 60% restants une fois que l'année est écoulée. Et pourtant, vous n'avez toujours pas obtenu les fonds de l'année 2025. S'ajoute à cela 236 000 euros de baisse cumulée par les 20 associations. Il faut avoir une trésorerie solide dans ces moments-là.
Oui, nous sommes la banque de l'État. je pensais pas un jour pouvoir dire ça, mais effectivement, dans la manière dont cet appel à projet a été pensé, STAEMI, où il y avait cette partie de compensation de charges, c'est-à-dire l'association dépense et elle sera remboursée. Donc là, aujourd'hui, on n'est pas remboursé. Mais en plus, sur les dépenses qu'on a pu faire depuis le début de l'année, on nous annonce que non seulement on ne sera pas remboursé, mais en plus, il faudra faire avec moins. Donc, oui.
Donc on est la banque de l'État, mais une banque solidaire, parce qu'on prête à taux zéro, évidemment. Parce qu'on récupère pas l'argent sur l'argent qu'on prête.
Ouais, c'est pas mal, ça.
Mais pour organiser tous ces projets, vous vous tournez vers qui, alors? Parce qu'il faut bien avancer l'argent. Vous vous tournez vers des banques?
Ça peut arriver quand on est dans des situations d'urgence. C'est pour ça que le secteur associatif, souvent on entend qu'il ne faut pas faire de bénéfices. Heureusement que le secteur associatif fait des bénéfices sur les exercices. La seule chose qu'on peut pas faire, c'est le redistribuer entre les membres. Mais ces bénéfices qui peuvent être accumulés chaque année viennent nourrir derrière les fonds propres et la trésorerie des structures pour essayer d'y faire face. Mais dans des moments comme ça, comme aujourd'hui, avec des montants aussi importants, ça veut dire qu'il y a pas mal de structures qui sont très très fragilisées par ces coupes budgétaires.
Je confirme aussi sur la situation de l'UDAF. Nous, on avait pu faire des emprunts pour certains investissements qui étaient conséquents. On avait essayé de préserver une trésorerie qui permet justement de faire face à ces difficultés, mais pas forcément à long terme.
Tout cet argent que vous n'allez pas recevoir suite à la baisse, ça représente environ 1500 personnes qui ne pourront pas accéder aux aides. C'est frustrant de se dire qu'on peut pas aider ces personnes-là alors qu'on aurait pu de base.
On ne pourra pas les accompagner de la même manière. On ne tire pas un trait sur les 1500 personnes qui vont être accompagnées. Et si d'ailleurs on le faisait, je pense que les professionnels seraient les premiers à nous dire c'est pas possible, parce que ça a plus de sens si on devait faire ça. Donc ce qu'on dit, nous, c'est on va continuer pour ces 1500 personnes avec les autres acteurs du département, mais pas de la même manière, et malheureusement, on ne pourra pas continuer à leur offrir ce qu'on avait imaginé et ce qu'on avait déjà commencé à faire. Ça, c'est ce que disait une de mes collègues, Juliette, lundi matin. C'est finalement ce qu'on pouvait proposer en janvier à une personne. Eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne peut pas lui proposer parce que cette enveloppe, on ne l'a plus. Voilà. Donc, il y a une forme même d'inégalité dans ce qu'on est en train de faire.
Les fonds, ils sont durement négociés. Il y a une convention qui est signée avec l'État pour acter l'accord. Cette convention, elle vient de se déchirer. Est-ce que ça remet en cause la parole de l'État ?
Bah, en tout cas, ça met en cause le lien de confiance qu'on pouvait avoir avec un opérateur avec qui on avait signé une convention. Vous voyez, d'ailleurs, je dis le mot opérateur pour parler de l'État, parce que c'est comme ça qu'il nous considère. Mais on ne pensait pas qu'on allait devoir... qu'ils allaient pouvoir un jour comme ça remettre en cause des engagements qu'on a pris. Et ça, c'est très difficile pour s'ajuster sur 2026. Et ça nous questionne et ça nous inquiète énormément sur 2027. Parce que si en mai 2027, on doit relancer l'activité, quel interlocuteur on aura et qu'est-ce que nous dirons l'État sur des actions qu'on doit faire jusqu'en novembre 2027 ?
Je confirme. Nous, on parle d'une rupture de confiance. En fait, même en tant qu'opérateur, c'est vraiment le terme. En fait, on nous demande depuis des années de coopérer, d'innover, d'être là, d'être présent. Et on est là. Les associations sont bien présentes. Aujourd'hui, on a cette annonce qui remet complètement en cause, finalement, cet engagement que pouvait avoir l'État. Nous, on s'est engagé sur 3 ans. Au bout même pas d'un an pour certains projets, eh bien en fait la parole est déjà reprise et on a déjà cette inquiétude de 2027. C'est pas possible en fait de fonctionner comme ça. C'est pas possible d'avancer en se disant on n'a plus confiance. Donc là oui, cette décision, c'est une relation de confiance qui est rompue.
Alors l'O2R, on parlait tout à l'heure, l'offre de repérage et de remobilisation, c'est un appel à manifestation d'intérêt qui consiste à aider les personnes qui ne sont pas aidées par France Travail. Ces personnes, elles sont invisibilisées. Comment on fait pour les intégrer et les suivre et les aider ?
Alors, je trouve que l'O2R, même si c'est un acronyme qui est assez compliqué comme ça, on repère. Et en fait, repérer, c'est parfois perdre du temps. C'est-à-dire qu'il y a de l'improductivité sur un début de projet comme celui-là, parce qu'on doit être visible. Donc, des professionnels qui vont tenir des permanences sur des temps de distribution alimentaire, qui vont avoir, pareil, un petit stand qui se compose d'une table, deux chaises et un parasol. Sur cette période, c'est plutôt utile. Sur des marchés, et qui vont parler, en fait, de ce qu'ils proposent. Pour qu'à un moment, soit on capte directement des personnes, soit on capte quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait être intéressé. Et donc ça, c'est un gros travail qui peut durer plusieurs semaines et plusieurs mois jusqu'à un moment où on reconnaisse le terme Ginova, Itia, oui, on sait, on vous connaît. Et là, on aurait peut-être quelqu'un qui aurait besoin de vous. Donc là, on repère. Et une fois qu'on a repéré, eh bien en fait, c'est maintenant, il faut se dire... on peut y arriver ensemble. Les personnes qui sont invisibles du secteur public de l'emploi, qui sont dans cette invisibilité, ça fait pas 15 jours qu'elles le sont, ça fait des mois, voire des années. Et donc, se dire, il y a un professionnel en face de moi qui me dit que je peux y arriver, ça va mettre du temps. Donc c'est là où on parle de remobilisation. Donc le repérage, la remobilisation, jusqu'à arriver à un moment à intégrer un parcours d'insertion. Parce que nous, on ne le cache pas, on n'est pas là juste pour rompre cet isolement, on est là parce que les personnes, à un moment, il faut qu'elles reprennent aussi une activité. Et pour ça, elles ont besoin de reprendre confiance en elles. Donc c'est notre job.
Depuis 2024 ou 2025, il y a 5 consortiums, donc des associations qui travaillent ensemble pour aider les personnes qui sont dans les programmes. Chaque association, elle apporte ce qu'elle peut. Comment on arrive à tous travailler ensemble ?
Alors, je dirais que ça, c'est le... c'est une force qu'on a dans le monde associatif et dans l'économie sociale et solidaire, c'est que on sait que c'est ensemble qu'on va pouvoir résoudre des problématiques qui sont assez difficiles. Donc on n'a pas la prétention, il n'y a pas un des 20 acteurs là qui a la prétention de faire mieux que les autres. Par contre, on sait que il y a telle structure qui va pouvoir être spécialisée sur tel sujet de mobilité, tel sujet de l'addiction, tel sujet de l'accompagnement vers l'emploi, tel sujet du logement, et que c'est ensemble qu'on va pouvoir y arriver. Et ça, on le fait sur énormément de sujets qui peuvent être très différents. Et c'est une conviction et une force qu'on a dans l'économie sociale, cette force de coopération.
On continue de parler des coupes budgétaires de l'État dans les programmes liés à la loi Plein Emploi, mais avant on fait une pause musicale. On écoute Ektirnir Fontaine, Servité des eaux du monde de Buck, une musique au style de fanfare qui nous propose de la funk. A tout de suite dans le pédalo. C'était Ektirnir Fontaine, Servité des eaux du monde de Buck. Vous êtes bien sur Radio Campus à l'écoute du Pédalo et on est toujours en compagnie de Malika Glani, directrice générale de l'UDAF, et Simon Écuyer, directeur de l'ERESA. pour parler des coupes budgétaires de l'État pour les programmes de remobilisation. Alors, les conséquences, elles suivent forcément ces coupes budgétaires. On a évoqué les 1500 personnes qui bénéficieront moins d'aide. Vous devez aussi interrompre des actions en cours, des emplois vont être supprimés et des paiements vont être suspendus. Les premiers touchés, c'est toujours le public.
Je confirme. En fait, dans une situation plutôt dramatique où finalement on ne pourrait plus accompagner ces publics-là, c'est pas pour autant que les problèmes de ces personnes, les problématiques qu'ils rencontrent, ça va disparaître. Et donc en fait, en diminuant nos enveloppes, en diminuant nos projets, nos capacités, nos objectifs, finalement en fait on ne fait que reculer et rendre la facture beaucoup plus importante dans l'avenir. Parce que ces personnes, il faudra bien à un moment les accompagner.
Pour réagir, vous avez envoyé un courrier au ministère du Travail et des Solidarités. Est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que vous comptez relancer? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire?
Alors, on a envoyé un courrier au ministre. On a envoyé en copie tous les sénateurs, députés, présidents de PCI de Maine-et-Loire pour lui dire qu'on avait besoin de restaurer la confiance, qu'on avait besoin d'engagement, à minima pour 2026, ensuite pour 2027. Donc voilà, on attend une réponse. On n'a toujours pas eu de réponse, mais en tout cas, les 20 structures associatives, là, attendent une réponse du ministre sur l'avenir de ce dispositif.
Vous êtes dépendant des budgets de l'État. Comment on réagit quand chaque année, on voit que de moins en moins d'argent est alloué aux associations ?
Alors, on n'est pas dépendant du budget de l'État. Nous, on a une mission d'intérêt général quand on porte là-dessus. C'est l'État qui mobilise un budget, qui nous sollicite pour faire des choses qu'il n'est pas capable de faire. Et ça, c'est dans cette logique-là qu'on intervient. C'est pas nous qui avons demandé à accompagner ces personnes. C'est l'État qui sait que ça, comme tu le disais tout à l'heure, ça a un coût de ne rien faire. Et c'est l'État qui nous a demandé de venir et l'État, il va pas sur les bidonvilles. L'État, il va pas sur. Il a pas de lien avec ces personnes invisibles, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est, pour la société, c'est indispensable d'avoir du lien avec ces publics-là et de faire en sorte, comme tu disais, tu parlais de confiance, mais parfois, je prends l'exemple, nous, on travaille avec l'association Aide Accueil et l'association Anjou Insertion Habitat sur le programme de résorption des bidonvilles. Les personnes qui vivent en bidonville, les 500 Roms qui vivent en bidonville, là, viennent pour travailler, pour pallier au manque de main-d'œuvre d'un certain nombre d'entreprises. Donc quand ils sont salariés, ces entreprises, ils payent des cotisations, ils cotisent pour tous les Français à la retraite, cotisations sociales, etc. Donc c'est de ça dont on parle. C'est pas un coût pour l'État, c'est plutôt un gain pour la société de faire en sorte que tous ces publics puissent vivre en harmonie dans notre société.
Jusqu'à présent, nous, on s'est toujours considérés comme des partenaires, en fait, dans cette société. C'est un pacte social. Nous, on y contribue, effectivement, comme le dit Simon. L'État ne peut pas se démultiplier pour agir directement auprès des publics. Donc, sans les associations, eh bien, c'est tout un projet, tout un pacte social, en fait, qui tombe à l'eau. Donc, nous, on travaille de concert, normalement, avec l'État. Et quand on a répondu à cet appel à projet, c'est qu'on était convaincus que ça avait du sens et qu'effectivement, ne rien faire, ce serait un véritable coût pour la société. Donc, on n'imagine pas, quand on dit qu'on est des partenaires, on n'imagine pas traiter les partenaires de cette manière-là.
Alors, vos métiers, vos engagements, c'est d'aider l'humain, d'accompagner le public. C'est épuisant de devoir faire des recours juridiques, de parler avec la presse et d'envoyer des courriers. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de perdre un petit peu votre temps à mener des combats alors que vous voulez être sur le terrain à aider justement les gens directement ?
Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Donc, on n'a peut-être pas les compétences pour parler à la radio. on va s'y faire et puis on va s'entraîner. Hein, parce que je pense que malheureusement, ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, ce qu'on vit là sur l'O2R, sur ces coûts budgétaires, le nombre d'associations impactées par des baisses de budget, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, c'est tout un tissu associatif essentiel pour notre société qui est fragilisée. Donc oui, on va développer des compétences et peut-être que dans nos agendas, on aura un petit temps spécifique pour faire des recours. Je pense que c'est assez compliqué, hein, mais le recours en soi, c'est un peu l'étape où on peut imaginer qu'il n'y a plus de dialogue possible. Et moi, j'ai encore espoir, en fait, si aujourd'hui je suis là pour parler des projets qu'on porte, si on a demandé à la presse de se faire aussi le relais de nos propos, c'est qu'on a espoir, en fait, qu'on nous entende et qu'on n'oublie pas qu'on est des partenaires et qu'on est des partenaires de longue date et qu'on ne traite pas des partenaires comme ça. Donc voilà, j'ai pas mon espoir, pas tout de suite le recours.
Alors toi, Simon, à l'IRESA, en tant que réseau de l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour aider ces structures qui sont touchées ?
Alors, ces structures, quand elles sont touchées, elles peuvent parfois se sentir isolées. Donc, effectivement, on met en place un certain nombre de dispositifs de soutien aux structures associatives. Un directeur ou une directrice d'association, quand on est dans cette situation-là, on est tiraillé entre le maintien du modèle économique, le maintien du modèle de ressources humaines avec des sujets qui peuvent aller jusqu'à des questions de licenciement, et aussi le maintien du service aux populations. Et donc, c'est des fois des situations qui sont très complexes, pas faciles à vivre, qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de charge mentale. Et donc, à l'IRESA, depuis un certain nombre de mois, on met en place plusieurs actions. On a un groupe un club de dirigeants pour des structures de l'ESS où ils viennent partager leurs problématiques et avoir cet espace de soupape au quotidien. On a une cellule psychologique avec notre partenaire la MGEN où chaque structure, chaque adhérent de l'IRESA peut appeler un psychologue du travail pour décharger un peu ce qu'il a à vivre. Voilà. Donc c'est tout un tas de choses qu'on essaye de mettre en place pour venir soutenir les structures de l'ESS du territoire.
On le sait, réparer les dégâts sociaux, ça crée par l'isolement, ça coûte toujours plus cher que de mettre en place des amortisseurs sociaux à la base. Pourquoi on n'arrive pas à gérer et à prévoir ce genre de crise ?
Parce que je pense que notre action, elle n'est pas visible de manière instantanée. Accompagner des personnes qui sont en grande fragilité, qui ont cumulé des problématiques, qui ont eu un parcours de vie compliqué, qui ont pu chuter à un moment. Hein, on prend l'exemple de séparation, on prend les situations de famille monoparentale, en ruralité, sans emploi, enfin voilà. On cumule, on peut cumuler, et à un moment, on perd confiance en soi. Eh bien, tout ça, en fait, ça se construit pas et ça ne se reconstruit pas en une journée. Et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, on aimerait avoir 1 euro d'investi et 10 euros de rentabilité demain, quoi. Sauf que nous, le demain, eh ben, ce sera peut-être dans un an. Mais par contre, nous, ce qu'on sait, c'est que quand on regarde par rapport aux statistiques, au coût de l'inactivité, 1 euro investi aujourd'hui dans nos actions, là, c'est 15 euros de retour de gain, en fait, socio-économique. C'est-à-dire que une personne qui vit de minima sociaux parce qu'elle n'a pas ni la mobilité pour se rendre un emploi, ni même d'être en lien avec France Travail, qu'elle a laissé sa santé de côté parce que quand on n'a plus confiance en soi, quand on ne se respecte plus, quand on n'a plus d'estime, eh ben sa priorité, c'est pas de se soigner. Et donc ça aussi, ça a un coût parce que le jour où on est vraiment très mal, eh bien ce sont les urgences, ce sont des hospitalisations qui ne sont pas anticipées, c'est pas de la prévention. Et en fait, on cumule toutes ces problématiques pour des personnes qui sont éloignées de tout, invisible, qu'on a laissé de côté. Et donc c'est ça, en fait, c'est cette inaction qui va coûter cher à un moment. Et puis, si on agit, je prenais l'exemple, en tout cas sur le dispositif ITIA, sur le projet qu'on a déposé, on est un consortium, je le rappelle, hein, avec le CIDFF, avec ALIA, avec AFODIL et donc l'UDAF. Ce qu'on fait et ce qu'on apporte en étant sur plusieurs champs d'action, ça coûte pour une personne qu'on accompagne moins de 10 euros par jour. C'est l'investissement de l'État, moins de 10 euros par jour. Et donc, j'ai du mal à entendre, en fait, mais je comprends aujourd'hui ce besoin d'urgence et de réponse immédiate. Mais quand on a un investissement comme celui-là, on peut laisser, on doit laisser le temps de ce retour sur investissement, parce qu'il est là, il est vraiment là.
Il y a une force collective qui se met en place entre toutes les associations. Vous êtes solidaires. Est-ce que vous êtes optimiste pour le futur ou c'est encore trop compliqué à l'heure actuelle de voir le bout du tunnel ?
Les associations ont toujours su se réinventer. Malheureusement, souvent sur plein de sujets, quand des activités ou des activités créé par des associations, quand ça commence à bien fonctionner, c'est les entreprises qui viennent prendre la petite crème là qui fonctionne bien. Ça a été le cas sur les services à la personne, c'est le cas aujourd'hui sur le réemploi. Et donc à chaque fois, les structures de l'ESS savent se réinventer. Donc oui, j'ai confiance parce qu'on va, on va rester collectif, on va coopérer, on va réussir à se réinventer. Mais on ne pourra pas se réinventer, comme tu le disais tout à l'heure, sans les pouvoirs publics. Nous, on porte des actions d'intérêt général et territorial. C'est ça qu'on partage avec les collectivités, que ce soit à l'échelle de l'État, que ce soit à l'échelle de la région, que ce soit à l'échelle des communes et des communautés de communes. Et c'est ça qu'on veut partager avec ces collectivités, cette notion d'intérêt général. Là, dans le cas présent, l'intérêt général, c'est nous qui le portons et ce n'est pas l'État. Et ça, c'est dommage, mais on a espoir que ça redevienne un peu plus responsable.
Et dans un même esprit, mais on sait qu'aujourd'hui les finances imposent plutôt une restriction budgétaire. On est baigné dedans, nous, dans le secteur associatif depuis longtemps, et on le sait. Et ça, en fait, on se dit bon, à un moment, ce sera aussi, comme le dit Simon, une manière, à un moment, de se repenser. C'est une crise, peut-être pour mieux se repenser. Ce que l'on vit là, ce n'est pas ça. Ce qu'on vit là, c'est réellement mettre des associations en difficulté. Parce que si on nous avait prévenu bien longtemps avant que ce projet, par exemple, les enveloppes qui nous étaient proposées ne seraient pas garanties, qu'on aurait forcément une baisse de budget, donc on s'attende à faire avec moins, eh bien, peut-être qu'on aurait anticipé, ou peut-être même qu'on aurait fait le choix de dire, écoutez, même si on sait l'urgence, on ne vous accompagnera pas, là, aujourd'hui, l'État, dans cette situation, même si on sait que c'est important. Et ça, en fait, ça n'a pas été honnête. Pour moi, il y a des distinctions entre on accompagne dans les restrictions budgétaires et on sait, et on sera toujours en soutien de comment on peut accompagner. Mais cette manière-là de faire aujourd'hui, elle est inacceptable.
Et ça correspond à des choix politiques aussi. On peut faire d'autres choix. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'État fasse d'autres choix.
Merci beaucoup, Malika Glani, directrice générale de l'UDAF, et Simon Écuyer, directeur de l'IRESA, d'avoir été nos invités ce soir. Je rappelle que les coupes budgétaires impactent énormément les associations, mais que les premiers concernés sont les personnes qui sont déjà vulnérables et isolées. Bonne soirée! Le Pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Maël à la technique. La programmation continue sur le Centre FM. Alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.